Jordan FM, Jordan Sport.
Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Jean-Marc Cottier, Thomas Mongil et Jérémy Vanin, entraîneur adjoint en charge des lignes arrières au stade Aurillacois. C'est ta première ici à Jordan FM, Jérémy, comme tu nous le confiais. On est ravis de t'accueillir ce soir. C'est ta première saison à Aurillac. Là, tu viens de prolonger pour 3 saisons. Déjà, raconte-nous comment ça s'est passé, ton adaptation, ton intégration ici au club, à la ville.
Et oui, première saison à Aurillac, comme tu disais, première saison en Pro D2 aussi, puisque moi je découvre ce championnat en y étant acteur, puisque bien sûr je connaissais parce que j'étais un spectateur de ce championnat. J'arrivais d'une expérience albigeoise, c'était ma première expérience en tant qu'entraîneur d'un collectif professionnel, donc en national avec Albi. Mmh. Et j'ai eu cette opportunité là de venir sur Aurillac en connaissant personne et en étant du Lot. Mais j'ai voulu me mettre un peu en danger, sortir un peu de ma zone de confort, faire quelques sacrifices pour essayer de me tester, d'essayer de pouvoir côtoyer un peu de plus près cette Pro D2 qui nous tendait un peu les bras avec Albi, avec laquelle on n'avait pas réussi à y accéder. Donc j'ai été accueilli, très bien accueilli même par les Aurillacois au mois de juillet, par le staff d'abord. Roméo, Mathieu, David qui était présent et Jean-Marc aussi qui m'ont aidé à m'intégrer, qui m'ont rapidement intégré puisque Roméo en plus était blessé, il avait un tendon d'Achille
au début de la saison,
ce qui m'a mis dans le bain directement sur le terrain avec les joueurs.
Ouais.
Et l'intégration s'est plutôt bien passée sur l'été et j'étais très content et très satisfait d'avoir fait ce choix-là.
Justement, la découverte de ce monde professionnel ici, alors qu'est-ce que ça change pour toi par rapport à Albi par exemple?
On est à peu près sur des structures et du travail qui est équivalent entre Albi qui sont même en national mais qui sont avec des joueurs professionnels et une structure. Ce qui m'a un peu marqué en arrivant ici, c'était sur les structures, les différents endroits où tu t'entraînes toute la semaine entre la vidéo. Il faut essayer de s'adapter un petit peu et tu perds un peu d'énergie à droite à gauche pour pouvoir te rendre sur les différentes installations. Et bien sûr, on m'avait prévenu, mais le climat qui oblige des adaptations assez fréquentes sur les terrains d'entraînement. Mais on a réussi à s'adapter. J'ai bien compris en arrivant ici que c'était une façon de fonctionner, qu'elle était ancrée, que ça faisait partie aussi des valeurs et des racines du stade.
Ça fait partie malgré tout des choses qu'on peut encore améliorer pour faciliter votre tâche à vous et celle des joueurs.
Oui, bien sûr, ça fait partie, mais là, on est dépendant des pouvoirs publics, des partenaires pour pouvoir essayer d'améliorer ça. Mais ça nous oblige, nous, staff et dirigeants, à trouver des solutions et à réfléchir à des adaptations pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Donc on se pose toutes ces questions-là. Et c'est pas moi qui, en arrivant, me suis posé, elles se posent déjà. Et il y a peut-être des petites évolutions qui vont arriver dans les saisons qui viennent.
Justement, au niveau du staff, Roméo et Mathieu ont aussi prolongé. Bon, David s'en va, lui. Ça montre que le club compte sur vous, compte au moins sur ce trio. Comment ça se passe, la cohabitation avec Mathieu et Roméo, Lania?
Clairement, les dirigeants nous ont fait comprendre très tôt, c'est-à-dire au mois de janvier, qu'ils voulaient travailler sur la continuité et continuer l'aventure avec le staff actuel. Pour ce qui est de David, David, comme vous le savez, il habite sur Libourne et ça faisait un moment qu'il faisait les voyages et peut-être que le côté familial commençait un peu à lui peser. Ensuite, Roméo, donc c'est l'entraîneur en chef qui manage un petit peu tout son staff. Et moi, j'ai créé très vite des relations aussi avec Mathieu, avec les préparateurs physiques. On est un staff, on est obligé de toute façon d'être lié un peu à l'image des joueurs sur le terrain, puisque c'est un des impératifs pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire avoir de la confiance entre nous, passer du temps, un peu de temps dehors du terrain quand c'est possible aussi pour partager des moments. Parce qu'on a quand même la chance, et ça, il faut le souligner, c'est le plus important, de faire de notre passion un métier. Et c'est ça qui nous fait vibrer, c'est qu'on est des passionnés, et c'est ça avant tout, c'est qu'on est des passionnés.
On t'a vu rapidement, quand tu l'as souligné tout à l'heure, quand tu es arrivé, rapidement prendre la parole et t'imposer en parlant sur le terrain, en parlant beaucoup avec les joueurs, en arrêtant parfois le jeu par rapport à ce que tu voulais et tout. Cette intégration, donc là, c'est super bien passé. Le fait maintenant d'avoir 3 ans ensemble, ça donne d'autres perspectives quand même pour préparer un projet, parce que là, le projet, il devient intéressant.
Ah ouais, enfin, pour moi personnellement, ça change beaucoup de choses. J'arrive en essayant de faire mes preuves. Donc ma façon de faire mes preuves, c'était le terrain. Ça a été le terrain, ça a été le temps passé avec les joueurs, essayer de mettre en place mes idées qui étaient en accord bien sûr avec le staff. Ça c'est la première étape, mais j'ai fait mes preuves. Maintenant on me propose 3 ans, j'ai validé ces 3 ans là. Maintenant ça m'ouvre une perspective beaucoup plus lointaine sur comment on va évoluer ensemble dans le jeu, avec le staff, avec les joueurs. Voilà, ça change beaucoup de choses dans la philosophie de ce qu'on pense et de ce qu'on va amener pour le Stade Aurillac, quoi.
Et notamment en espérant amener du soleil et enfin du jeu. T'as dû être frustré quand même sur l'année.
Oui, j'ai été frustré. Après, comme tu le dis, il faut qu'on soit en capacité de s'adapter. On a réussi à gagner des matchs, pas que par le jeu, bien entendu. Mais voilà, le Stade Aurillacois, on va essayer de le faire jouer dans la mesure du possible avec les joueurs qu'on a, et on va se reposer surtout sur les qualités qu'on peut avoir avec les joueurs qu'on a.
Justement, c'est quoi toi tes principes de jeu, tes idées de jeu pour le futur du Stade Aurillacois? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place?
Mais là, on va dire que à l'heure actuelle, on arrive, si on parle offensivement, on arrive à plutôt être efficace pour sortir du camp. C'était quand même une réelle qualité, un réel point positif qu'on avait, notamment sur la longueur du jeu au pied avec Marc, mais aussi avec les demi-mêlés qui étaient en capacité de sortir du camp. Notre évolution, on en discutait tout à l'heure, c'est dans toute la zone de construction, donc autour du milieu de terrain, à qu'on arrive à être vite en place sur notre système de répartition des avants et qu'on soit plus efficace à l'intérieur des structures, donc des structures de 3 quand c'est les avants, ou des structures de couloir avec les joueurs de couloir. Il faut qu'on arrive à gagner en efficacité là-dessus, mais il ne faut pas qu'on oublie un élément du rugby qui est important et qui peut l'être aussi à Aurillac, c'est le jeu au pied offensif. Quand on n'arrive pas à avancer, qu'on n'a pas forcément des joueurs qui sont en capacité sur des infériorités numériques à casser les lignes et à faire. Il faut qu'on soit en capacité d'avancer par d'autres moyens, pas pour rendre le ballon à l'adversaire, mais pour lui mettre la pression ou récupérer le ballon sur un jeu au pied.
Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des types de joueurs manquants, des profils que vous recherchez peut-être actuellement pour la saison prochaine? Quel type de joueurs vous manque actuellement à Aurillac?
Oh ben, des profils.
C'est un peu la question piège.
On en voudrait beaucoup des profils. Après, on est satisfait bien sûr des joueurs qui sont là et qui continuent sous contrat, mais les profils qu'on recherche, je sais pas si on les aura, mais bien sûr c'est des joueurs pénétrants sur la troisième ligne, un peu à l'image de Didier. Mais Didier, il est un peu tout seul aujourd'hui, a beaucoup travaillé sur la troisième ligne avec l'atout, mais c'est des joueurs pénétrants. C'est un peu des facteurs X qu'on peut avoir Montauban. On a vu Montauban qui avait des joueurs qui sont capables à un moment donné, alors qu'il se passe rien, de faire une différence et de briquer une ligne, ou de faire une passe où on sait pas ce qui se passe et de briquer une ligne et d'aller marquer des points. Donc c'est ce type.
À l'image d'Elijah Nico par exemple, qui peut avoir ce profil là.
Il pourrait avoir ce profil là, voilà,
c'est exactement. Ou Edgy qu'il avait quand il est arrivé. Et Edgy était un facteur X quand il est, enfin donc voilà, après c'est, enfin je dis pas qu'il a mal évolué, mais pour le coup on le voit moins par rapport à ça, mais on savait que sur ses appuis ou sur ses relances, il était en capacité de casser une défense à lui tout seul, quoi.
Oui, et puis d'ailleurs il a fait des très bons matchs cette année.
Bien sûr.
Et Edgy, ça reste un joueur important du dispositif.
Sur cette saison, Jérémy, le maintien, il a été acquis de bonne heure. Bon, ça c'est très bien. Mais est-ce qu'il y avait la place pour aller chercher un petit peu plus? On vous a vu à l'aise face aux équipes du top 6. Vous le sentiez, qu'est-ce qui vous manque encore?
Ben d'aller gagner des matchs à l'extérieur.
Bon, tout simplement, c'est la même analyse qu'on a comptablement et pragmatiquement.
Bah, comptablement, c'est ça.
Oui.
Après, on n'a pas eu la volonté jusqu'à maintenant de faire tourner un effectif à l'extérieur, de faire. Si on regarde les compositions d'équipe qu'on a alignées à l'extérieur, on a aligné des compositions d'équipe avec les joueurs qui étaient en forme sur le moment. On est passé pas loin. Donc les grosses frustrations, c'est Montauban sur le dernier match à l'extérieur, Montauban. Bourg-en-Bresse et Rouen, on passe complètement à travers. Bourg-en-Bresse, on perd à la 76e minute. Mais si on veut se qualifier, il faut qu'on soit en capacité, d'aller chercher ses points à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a gagné qu'à Narbonne sur le premier bloc. On n'a pas gagné un match après.
Alors c'est un problème d'attitude, de composition,
Et c'est les questions qu'on se pose, mais on se les est posées, mais on n'a pas rectifié le tir puisqu'on a toujours perdu à l'extérieur sur les matchs d'après. Donc, bien sûr qu'à l'intersaison, à l'intersaison, ça sera un point à aborder, de réflexion essentielle à avoir avec les joueurs aussi, parce que peut-être qu'ils ont aussi des explications de leur côté. On n'a pas l'impression de galvauder les matchs à l'extérieur, honnêtement. On savait qu'il fallait aller chercher 2-3 matchs à l'extérieur et rester quasi invincible à domicile pour se qualifier. Et cette année, le classement et le championnat nous auraient permis, en allant chercher 2 victoires à l'extérieur, mais de rentrer dans les 6, ce qui aurait été il faut quand même le dire, assez exceptionnel pour le Stade Aurillacois de rentrer dans les 6.
Bien sûr, quand on voit les équipes de devant, je suis assez d'accord.
Non, puis en plus, on en a souvent parlé, la différence qu'il y avait, et notamment ça, ce qui s'est vu en janvier, la différence qu'il y a entre Carcassonne notamment et le Stade Aurillacois, c'est deux matchs à l'extérieur que Carcassonne a su aller chercher, puisque à ce moment-là, ils sont à égalité, je crois, au niveau de points, et Carcassonne passe du bon côté, pour le coup. Donc voilà. C'est vrai que ça se joue pas à grand chose, finalement. Il y avait le match d'Agen aussi, vous pouviez aller chercher.
Oui, il y avait le match d'Agen aussi.
Oui. Peut-être quelques points aussi.
On sait que Aurillac mise beaucoup sur les jeunes, Jérémy, avec notamment les espoirs qui tournent de bien cette saison. C'est quelque chose qui te plaît, toi, dans le projet Aurillacois aussi, de savoir qu'il y a des jeunes qui tournent, d'intégrer des jeunes aussi à l'équipe première?
Oui, bien entendu. Moi, je sors de la formation. J'étais à la Fédération Française de Rugby avant en tant que conseiller technique, donc je sors de la formation. Les jeunes, des tout petits jusqu'aux juniors, jusqu'aux espoirs, j'en ai entraîné, j'en ai côtoyé. Il m'est arrivé deux ou trois fois d'aller faire des interventions avec les espoirs, de faire les entraînements espoirs, ben, tout simplement parce qu'on est un staff assez général, pro et espoir quand même. On est en sans cesse réflexion avec Michel, Alain Belguiral, Michel Frachat et Jean-Marc. On travaille régulièrement ensemble. Donc oui, ça m'intéresse bien sûr de savoir et de vous. Et je suis admiratif des résultats de l'équipe espoir sur cette saison. Là, ils vont se qualifier sur le plus haut niveau espoir. Ils ont déjà validé leur qualification trois matchs avant la fin de la phase de poule. Donc, ils font une saison exceptionnelle et ça veut dire qu'on a quelques potentiels qui sont chez les espoirs et qui va falloir qu'ils nous rejoignent puisqu'on en aura besoin.
Ouais, il y a déjà des profils que vous souhaitez intégrer dès l'été prochain, par exemple en préparation avec les pros.
Oui, on a commencé déjà même en championnat puisqu'on a vu le jeune BK, qui a fait son deuxième match avec nous et qui a fait deux bonnes entrées. On va essayer d'intégrer un autre troisième ligne, la team de Young sur les semaines d'entraînement qui est déjà avec nous. Il y a le petit June au centre qui est avec nous. On a des joueurs qui vont monter comme l'ailier Vandersburg qui va monter avec nous. Enfin voilà, on a déjà ciblé avec le directeur sportif Walter les profils qui vont intégrer et comme on fait des préparations à effectif élargi et qu'on va réduire certainement l'effectif général pro la saison prochaine, on aura encore plus besoin de ces jeunes qui sont en train de bien gazer avec les espoirs.
Ouais, parce que ça a déjà été le cas en plus depuis le début de saison. Enfin, ils ont été intégrés quasiment d'emblée avec même s'ils n'étaient pas forcément dans le groupe, mais ils étaient au moins juste à côté avec la possibilité de rentrer dès que c'était possible.
Oui, c'est ça. Tous les mardis, on a travaillé. Alors, on a eu quelques soucis avec le Covid en début de saison, mais il y avait 30 pros qui s'entraînaient et le reste des pros avec les espoirs sur le terrain d'à côté à la Ponetti, ce qui nous permettait de tourner, d'avoir un œil, de faire rentrer des jeunes avec nous sans arrêt. Il y a vraiment eu cette politique-là qui a été mise en place en début de saison.
Tiens, Jérémy, cette semaine, nos confrères de la montagne ont annoncé l'arrivée du pilier droit Enzo Quito pour la saison prochaine en prêt. Il viendrait de Clermont, de l'ASM. Tu peux nous confirmer l'info, toi, ou pas?
Pas officiellement. Il est sûr qu'on était en contact avec lui et qu'a priori, il aurait donné son accord, mais j'ai pas vu de papier signé. Par contre, c'est une information qui peut être validée dans les jours qui viennent, je pense.
D'accord. Et pas plus, donc, concernant pour les fins de contrat, Adrian Smith et Rémus Agoté pour le moment, les deux joueurs qui sont en fin de contrat pour cette fin de saison.
Le président a dit qu'il nous en parlerait incessamment sous peu sur notamment des signatures et ou non prolongations. Donc, on attend.
Quand on voit encore les performances d'Adrian Smith, bon, ça...
Ah bah quand Adrian il a quoi là maintenant 35
je crois.
Quand on voit qu'il est en capacité de pouvoir produire encore ce genre de rugby, ouais bien sûr que ça.
Ce serait dommage de s'en priver.
C'est intéressant. Après voilà il y a trois autres profils au minimum derrière en talon qui peuvent être intéressants avec une grosse marge de progression. Donc voilà mais après c'est pas à nous de le dire mais après oui la certitude pour l'instant sur ce poste là oui c'est Adrian Smith. Ouais.
Bon
pas pour moi. Mais moi je suis pas coach.
C'est sûr, on devra en savoir plus prochainement. Jérémy, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est bon, tout va bien. Très tu bien. Reviendras
sans problème.
Allez, on reste dans le rugby, messieurs. Thomas, on va passer à toi. Thomas, capitaine de Saint-Cernin. Saint-Cernin qui débute ses phases finales ce week-end. On reste ensemble jusqu'à 18h. À tout de suite.